voix du Kaizen.
Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.
Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. Dans cette saison d'émission radio, Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence et du sens pour pas à pas vivre le changement nécessaire à nos sociétés. Denis Flores est maraîcher en bio. Il a acheté une terre dont personne ne voulait car trop d'arbres. Parfait, c'est juste le terrain qu'il lui fallait pour faire l'expérience de l'agroforesterie. Denis et sa compagne Virginie m'accueillent le temps d'une cueillette de fraises à l'ombre des noyers. Rencontre avec Denis qui nous parle de son parcours, de son métier et des problématiques qui y sont liées. Et donc, tu disais, ça fait beaucoup de pertes.
Ça, c'est vraiment, on s'en rend pas toujours compte, mais c'est les aléas du climat qui ont un impact direct sur les métiers de l'agriculture.
De la terre, ouais, bien sûr. Et ouais, dès qu'il fait un temps un peu bizarre, la terre, elle s'en porte bien, puisque on a eu 3 années de sécheresse, donc forcément, la terre, elle aime. Mais tout ce qui pousse dessus et qui nous est nécessaire à nous, pas forcément à la terre, hein. La terre, elle a pas besoin de fraises pour vivre. Mais tout ce qui est issu de l'agriculture, ben, ça subit plus ou moins bien, ça vit plus ou moins bien les aléas climatiques, quoi.
Et donc toi, ça t'impacte directement aussi sur tes ressources et sur tes revenus, j'imagine.
Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Il n'y a pas forcément de stabilité, d'équilibre, on ne sait pas comment ça va se passer. On peut faire une bonne année si le climat le permet, comme on peut avoir une année assez déplorable si le climat n'est pas avec nous.
C'est ça, c'est tout à fait ça. C'est vraiment un peu la loterie, quoi. Donc on essaie de multiplier les cordes à son arc pour pas, comme on dit, la vieille expression, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et ouais, parce que si le panier casse, ben, on n'a plus d'œufs.
Alors qu'est-ce qui fait qu'on tient le cap? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on se dirige vers les métiers de l'agriculture ou de la paysannerie?
C'est un peu un retour à la terre, un retour aux sources, quoi. Mais je pense que c'est ce que toutes les conversions, puisque moi je viens du monde du bâtiment et de l'industrie, hein, avant j'étais électricien, et Virginie, ma femme, a été danseuse. Donc on a opéré cette reconversion parce que le métier de la terre, même s'il est dur, il est authentique, quoi. Il est vrai. Et ça, c'est des valeurs qu'on a perdues et que j'ai pas mal de stagiaires aussi qui viennent, qui veulent se reconvertir là, et dont certains qui viennent du bâtiment où c'est quand même un milieu de requins, quoi. Et qui veulent s'installer justement parce que l'agriculture, il n'y a pas de mensonge dans l'agriculture, c'est tout est vrai, quoi.
Et puis il y a aussi la noblesse qui est celle de nourrir la société civile.
Exactement, c'est quand même un sacré paradoxe que de voir que le métier de base, le métier essentiel à la vie qui est de nourrir les gens, est le métier le moins bien rémunéré, quoi. C'est quand même assez fou, mais bon, c'est comme ça.
Mais comment ça se fait? Comment tu l'expliques? Parce que c'est à la base de tout. Si on nourrit pas cette machine physique qui nous permet d'avancer dans notre quotidien, ben on tombe.
Je sais pas, je pense qu'il faut aller chercher très très loin dans les... À l'époque, les paysans, on les appelait des serfs. Ils étaient au service des nobles. Hein, parce que voilà, nourrir un noble, c'était peut-être, apparemment, je sais pas, quelque chose de... Un privilège, peut-être. Donc voilà, le paysan était en haillon... Il travaillait dur la terre pour nourrir son seigneur. Bon, voilà. Je pense qu'on est resté sur cette image bloquée là-dessus depuis très très longtemps et on ne veut pas en sortir, quoi.
Alors ce mot paysan, il est aussi intéressant parce que pendant des années, il a été vu d'une manière assez péjorative. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce mot-là est en train de reprendre un petit peu de son estime et de sa brillance.
Exactement. Le paysan, la paysannerie, c'est... Dans paysan, il y a paysage, il y a pays, il y a terroir, il y a tout ça. Et c'est vrai que... Moi, je suis fier d'être paysan. Hein. Par contre, c'est une chose que j'aime pas, c'est qu'on me dise exploitant agricole. Je suis pas exploitant, moi. Moi, j'exploite pas ni la terre, ni les hommes, ni rien du tout. J'essaie de travailler avec la nature. Voilà. Je suis pas exploitant.
Mais c'est vrai que ce terme, je l'entends. Donc, qu'est-ce qui va différencier l'agriculteur du paysan de l'exploitant agricole?
Le paysan, il essaie de rendre la terre encore mieux que comme il l'a pris, quoi. De l'améliorer, de laisser quelque chose. Je dirais pas sans traces, parce qu'on est forcément obligé de laisser des traces, hein, parce que ça se voit pas dans la nature, tout ce qu'on fait ici, ça se voit pas dans la nature. Mais on essaye de s'en rapprocher le plus possible, en tout cas. On essaye de créer un milieu le plus possible naturel, le plus complexe possible. Voilà. Alors que l'agriculture, entre guillemets, conventionnelle, même parfois biologique, hein, sur des grandes surfaces pour produire énormément, ben, on est obligé de systématiser des systèmes, enfin, c'est le cas de le dire, et de faire en sorte de créer des unités très homogènes, trop homogènes. Ce qui fait que ben, ça ressemble plus vraiment à l'agriculture, enfin à la nature en tout cas. C'est l'agriculture qu'on a voulu instaurer, mais on se rend bien compte que c'est une agriculture qui n'est pas viable, quoi. L'agriculture viable, l'agriculture de demain, c'est une agriculture complexe. Voilà. Où il y a un certain équilibre. Et un équilibre, c'est. Il faut tout pour faire un équilibre. Il faut même des limaces, il faut des ravageurs. Mais si on veut des auxiliaires, il faut qu'il y ait des ravageurs, parce que sinon, les uns se nourrissent des autres. On ne peut pas briser les chaînes de la nature comme ça sans en subir les conséquences. Hein.
Mais donc les codes sont en train de changer. On se rend compte qu'aujourd'hui, ces grandes surfaces de monoculture tendent à disparaître ou pas du tout? Est-ce que ça va très bien, l'agriculture intensive, et on continue à développer des cultures, des monocultures sur des hectares et des hectares avec des intrants pour pouvoir nourrir les sols? Ou est-ce qu'on sent vraiment que ce modèle commence à s'essouffler et on se redirige vers quelque chose d'un petit peu plus, tu parlais d'équilibre, de système plus équilibré?
C'est là aussi qu'il y a un énorme dilemme, c'est que l'agriculture intensive ne nourrit pas la planète. L'agriculture intensive nourrit des actionnaires. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut demain nourrir la planète avec des produits sains, j'entends, hein, parce que nourrir les gens avec de la merde, j'appelle pas ça nourrir les gens, j'appelle ça les empoisonner. Voilà, faut faire un choix, il faut qu'à un moment donné, les gouvernements aient le courage de leur choix et s'affranchissent des lobbies. C'est, là, encore une fois, on parle d'exploitation de l'homme par l'homme, quoi. Donc on est bien des exploitants agricoles. Quand on exploite, et puis quand il n'y a plus rien, ben on jette. On passe à autre chose. Voilà.
Belle introduction. Donc là, auditeur, tu n'as pas forcément la dimension visuelle de ce qui est en train de se passer, mais j'ai en face de moi un homme avec un pull rouge comme les fraises qu'il cueille, une femme avec un pull vert, aussi vert que les feuilles des fraises qu'elle cueille. On est dans un champ. Vous êtes déguisé en fraises,
en
fait.
On est déguisé en fraises à tous les deux.
Vous vouliez pas qu'on vous trouve, maman de bol.
On vous laisse cacher, on vous laisse fondre dans la masse.
On vous a vu, donc, tous les deux, accroupis, tous les trois, moi aussi avec mon micro, à cueillir des fraises, à faire des paniers. Et Denis Flores, c'est ton nom. Et on m'a envoyé vers toi, pour te rencontrer avec ce micro et voir un petit peu qui tu es, ce que tu fais. Et les techniques que tu utilises. Donc moi, on m'a parlé d'agroforesterie.
Ouais, c'est ça. L'agroforesterie, bah, on est en plein dedans. Si donc l'auditeur ne verra pas. En fait, on est. Faut imaginer qu'on est sous des arbres, pas des arbres. Alors, c'est des noyers en l'occurrence, mais avec un port très ouvert et du coup, la végétation se ferme pratiquement. Donc c'est vraiment un peu forêt amazonienne, quoi. Presque. On est sous une canopée. Assez intense. Alors c'est pas forcément toujours idéal pour la fraise, puisque même si c'est une plante de sous-bois, là il fait tellement humide que la fraise elle apprécie pas trop, du coup elle pourrit vite. C'est quand même voilà, l'agroforesterie c'est le travail avec l'arbre, et on s'en sert pour se protéger des fortes chaleurs, on s'en sert aussi pour tenir les sols, on s'en sert pour nourrir les sols, puisque les feuilles et les racines nourrissent les sols. Ils abritent une faune et une diversité d'auxiliaires, d'oiseaux, de... On les entend chanter là, c'est quand même assez fabuleux de travailler dans ce milieu-là, quoi. Même si c'est un travail dur, c'est un travail qui à la fois est plaisant, quoi. Après, que dire d'autre sur l'agroforesterie, c'est le mélange de deux cultures, une culture agricole de base et une culture forestière.
Mais quand on dit culture forestière, là du coup c'est pas la forêt de production, c'est juste des arbres qui sont là pour recréer un équilibre, un écosystème, c'est pas des arbres qui vont être destinés à être coupés.
Si. L'agroforesterie combine ces deux cultures. Alors après, il y a différentes façons de gérer les choses. On pourrait, donc dans une exploitation forestière, n'est-ce pas, on ferait pousser des arbres et quand ils sont mûrs, on coupe tous les arbres. Ce qu'on appelle une coupe à blanc. Et bah, ça crée des dégâts considérables puisque c'est un bouleversement écologique et assez soudain. Hein, on passe en une semaine d'une forêt à plus rien. Et c'est en fait ce qui se passe aussi en agriculture. Voilà, quand un milieu est planté, je sais pas, en maïs, ou il y a 200 hectares de maïs, puis d'un coup il n'y a plus rien. une fois qu'on a moissonné, tous ces types d'agriculture d'exploitation, ils créent des dommages au sol, puisqu'on passe d'un sol couvert à un sol nu en très peu de temps. Alors que l'agroforesterie, en tout cas telle qu'on la conçoit nous ici, on va exploiter entre guillemets les arbres, le bois, mais ici on a déjà coupé 15 arbres, mais ça se voit pas. Ça se voit pas, je veux dire, le milieu n'en souffre pas puisque le milieu se referme tout doucement et puis les arbres repoussent en plus, des souches, on laisse repartir des souches. Bah, de fait, c'est un système qui est dans la durée, il n'est pas dans le... Je produis du bois, puis d'un coup je passe d'un sol couvert d'arbres à un sol nu. Ici, il y aura toujours des arbres qui vont couvrir, qui vont protéger le sol, qui vont nourrir notre sol et qui vont nous protéger, nous, du travail, quand on travaille du soleil. Mais par contre, on va quand même couper des arbres quand ils sont mûrs ou quand on a la vente de l'arbre. Donc, c'est pas. On n'a pas planté ces arbres pour les couper d'un coup et faire une vente globale.
Voilà. Derrière toi, je vois d'ailleurs une souche qui est en train de repartir, hein, c'est ça ? T'as dû,
c'est ça.
C'est ça, ouais. C'est un rejet, là.
Là, on a un rejet de noyer qu'on a. On a géré, alors ça c'est un arbre qui n'était pas beau du tout, hein, on voit que la souche est toute petite, elle fait 20 cm de diamètre, comparé des autres qui font jusqu'à 700 mm de diamètre. Ben celui-là, on l'a coupé parce qu'il n'était pas beau, du coup ça fait un petit puits de lumière. On l'a recépé, donc on va choisir un jet qui soit un peu joli, et on laissera repartir l'arbre. Voilà. On en a un derrière nous là-bas aussi qui est tout petit. Qu'on a inclus dans une haie, qu'on va couper pour recéper, pour lui redonner de la vigueur. Ouais.
Mais comment tu choisis les essences que tu vas planter ou les essences d'arbres ? Donc là, c'est pas, on le voit pas, auditeur, mais c'est pas du fruitier tout ça ?
Non, c'est pas du fruitier, même si c'est un noyer, c'est les noyers hybrides, donc c'est les noyers qui produisent du bois. Alors c'est pas moi qui ai choisi, hein. Moi j'ai acheté comme ça, c'était à l'époque l'INRA qui avait planté, pour faire justement des tests sur l'agroforesterie, et moi, j'ai pas choisi de mettre 2 hectares de noyer en pur, quoi. J'aurais jamais fait un truc pareil, je pense. Avec le recul, hein, maintenant, c'est bien qu'ils l'aient fait parce qu'au moins ça permet de voir. Mais ils ont fait aussi un essai là-bas, un peu plus loin, de 4 hectares d'essence. Et c'est quand même beaucoup plus joli, puisque justement, il y a un peu de tout en mélange. Il y a 12 ou 13 espèces en mélange. C'est assez sympa, quoi.
Ce que je trouve intéressant en baladant avec mon micro, en allant à la rencontre de différents agriculteurs et paysans, c'est que je me rends compte qu'il n'y a pas un modèle, il y a des expériences qui sont menées. Donc là, on parle avec toi, Denis, d'agroforesterie, mais on a pu me parler de permaculture, de biodynamie, d'agroécologie. Certains refusent de se mettre dans une de ces cases et font un peu là, un mix entre toutes les techniques qu'ils ont pu découvrir en fonction de l'écosystème dans lequel ils s'implantent, en fonction de la structure des sols et la structure du terrain.
Oui, ben c'est ce qui est intéressant et c'est ce qui, à mon avis, va donner l'agriculture de demain, malgré nos détracteurs qui croient que l'agriculture de demain est toujours suspendue aux produits phyto. Voilà, mais ceux-là, à mon avis, sont dans l'erreur la plus totale. En fait, l'agriculture de demain, ça va être un sursaut d'intelligence de l'homme, je pense. L'homme va se réveiller, enfin, il va comprendre que l'agriculture, c'est pas simplement labourer une terre, donc déjà l'ouvrir en deux, la mettre à l'air, détruire toute la vie du sol qui était tout ce que le sol a mis un X temps à créer, pour après implanter une seule espèce et le stériliser complètement à grand renfort de produits phyto et tout ça. L'agriculture de demain, ça sera respecter le sol si on veut arriver à faire pousser des légumes sains, quoi. Et après, s'en nourrir. C'est quand même la base. On se nourrit de ce qu'on fait pousser. L'aberration, elle est quand même là aussi. C'est que quand on voit des agriculteurs qui ne mangent pas ce qu'ils produisent parce qu'ils savent ce qu'ils mettent dedans, c'est presque criminel quelque part, parce que dire ah non moi ça je le mange pas, je sais ce que j'ai mis dedans, c'est dégueulasse, quoi. Faut pas exagérer, quoi. À un moment donné il faut arrêter, quoi, ce genre de choses, quoi. Donc le bon sens paysan, c'est quelque chose quand même qui date, ça, le bon sens paysan, mais je pense qu'on l'a, enfin en tout cas les industriels l'ont perdu, ce bon sens. L'homme a perdu tout bon sens, voilà. Et il faut qu'on y revienne, c'est urgent.
Il y a cette phrase de Pierre Rabhi qui le résume aussi très bien, qui dit quelque chose comme « Bientôt, faudra plus souhaiter bon appétit, mais souhaiter bonne chance ».
C'est vrai, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bientôt, il faudra peut-être aussi faire bouillir l'oxygène avant de la respirer, si on continue comme ça. Sauf que si la modernité s'est trouvée à chaque fois la parade à la pollution qu'on va créer nous. Bravo l'homme moderne, quoi. J'ai souvenir d'une image d'un poster quand j'étais gamin où on voyait l'homme moderne natal, enfin le singe, puis toute l'évolution de l'homme, la chaîne humaine, et qui finissait en trapèze, en pyramide aussi, presque vers le singe, tout courbé avec à la place du nez une espèce de trompe avec un filtre au bout, quoi. Voilà, donc c'est un peu ça, quoi. De toute façon, on n'a que ce qu'on mérite, hein. Donc si on pollue la planète s'en sortira toujours, hein. C'est nous qui n'en sortirons pas. Voilà, bon, bah, il faut simplement comprendre ça, et quand on aura compris ça, bah, on arrêtera de faire n'importe quoi.
Mais donc toi, c'est fort de cette conscience, hein, de cette lucidité, j'ai envie de dire, ou en tout cas de cette observation du monde dans lequel on vit, qui t'a amené à faire ton retour à la Terre.
Ben, au départ, c'était une conversion. Un peu de ras-le-bol de je travaillais sur Paris, sur des gros chantiers, et un peu le ras-le-bol de toute cette industrie, toute cette ville, ce brouhaha, cette vie qui n'en était pas une, quoi, parce qu'en fait, c'est des heures et des heures à travailler dans des usines, respirer des odeurs nauséabondes. Voilà, c'est pas un métier, quoi. C'est pas ça, la vie, quoi. Et voilà, j'ai rencontré la Terre. Et je m'y suis senti bien. Déjà, je suis issu de la terre. Quand j'étais jeune, je ramassais des fraises, d'ailleurs. J'avais commencé à ramasser des fraises à l'âge de 12 ans. C'était pas une exploitation à l'époque, hein. J'étais content parce que je pouvais me payer mon vélo. Donc voilà, mes parents m'ont dit, si tu veux t'acheter un vélo, tu vas ramasser des fruits. Et voilà, et j'étais allé ramasser des fruits. Et j'ai commencé comme ça. Et voilà, et c'est pas de l'esclavagisme, hein. Maintenant c'est interdit de faire travailler les jeunes, mais quand on voit ce qu'ils deviennent, les jeunes, aérer dans les rues, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on revienne à cette époque.
Aller faire cueillir des fraises et leur enlever leurs tablettes.
Ouais, bah oui, parce qu'on était quand même payés, hein, et on était bien payés, donc voilà, tout le monde s'y retrouvait, les paysans avaient une main d'œuvre, voilà, disponible au moment où ils en avaient besoin. Et ce moment où ils en avaient besoin, c'est quand tous les jeunes étaient en vacances. Je trouvais ça très bien, moi, franchement. Maintenant, interdire ça, on a des contrôles sans arrêt, des contrôles MSA, des contrôles de ci, des contrôles de là. Ça devient n'importe quoi, quoi. On dirait qu'ils cherchent vraiment à... Que l'homme cherche vraiment à s'enrichir de l'essence même de l'homme, quoi. Jusqu'à le vider complètement.
On va changer de rangée, c'est
ouais.
Ça. Si je comprends bien,
je
là.
Je de l'autre côté.
Tu me mets de l'autre côté, voilà, ok. Ça, donc je tourne.
Vous écoutez La Voix du Kaizen.
Virginie et Denis. Donc, on arrivait par la route, on s'est garé sur un petit parking. Et j'étais surpris par la grandeur du lieu où on est. Est-ce que tu peux me le décrire? Donc, j'en reviens à ce terme d'agroforesterie. Tu disais que c'est une expérience qui a été mise en place par l'INRA il y a quelques années. Parle-moi de ce terrain et de ce qu'on va y retrouver.
Alors, ce terrain, il fait 11 hectares. Donc pour les personnes à qui ça parle pas trop, ça fait 110 000 m². Donc déjà c'est un peu plus parlant. On cultive 3 hectares presque de légumes sur ces 11 hectares. Et après le reste on fait des céréales. Donc on fait du blé qu'on transforme en farine. Et on fait du foin, du fourrage donc cette année. On n'aura pas de tournesol. D'habitude on fait aussi des tournesols. On peut faire aussi d'autres céréales comme du pois chiche, des féveroles, des fèves, des légumes secs, des choses comme ça.
Et c'est toi qui choisis ce que tu vas cultiver?
Absolument. Là, c'est moi et ma femme, c'est nous qui choisissons en fonction de ce qu'on veut, du marché qu'on veut aborder, quoi. Mais jusqu'à maintenant, on était dans un point de vente collectif pour vendre nos produits et... Donc on avait une diversité qui était plus grande. Et là, on est passé sur une AMAP. Donc une AMAP, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une aide au maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est une association de consommateurs qui s'engage à prendre tant de paniers par semaine et pendant tant de mois. Voilà, c'est... Donc pour nous, c'est un peu plus souple. Ça nous fait qu'une livraison par semaine et c'est plus simple à gérer, quoi. Parce qu'on manque de temps vu qu'on essaye de faire tout nous-mêmes. Et puis, il y a aussi le bois, quoi. Le bois, c'est aussi du travail, puisqu'on commercialise notre bois aussi. Donc voilà, c'est un petit plus, quoi.
Donc là, c'est ce que vous êtes en train de faire tous les deux ce matin. Donc, auditeur, tu le vois pas, mais on remplit des barquettes de fraises.
Voilà, c'est ça. On remplit des barquettes de fraises pour nos paniers de mercredi. On livre tous les mercredis soirs. Et donc là, on leur prépare quelques fraises. Il y en aura moins que la semaine dernière, mais il y en aura quand même quelques-unes. Et après, on va préparer les pois gourmands, les petits pois et les courgettes et tout le reste.
Et j'entends souvent dire que c'est compliqué pour quelqu'un qui veut se lancer dans un projet d'agriculture de trouver la terre. Comment ça s'est passé pour toi ?
Eh bien, ça s'est passé un peu par le hasard. En fait, je cherchais des terres, justement, et un collègue m'a dit « moi, je connais une parcelle à vendre ». Voilà, et donc il m'a amené ici, il m'a montré cette parcelle et j'ai contacté le propriétaire. Et en fait, cette parcelle était à la vente depuis 10 ans. Mais personne n'en voulait et je me suis posé la question pourquoi. Personne n'en voulait parce que à cause des arbres. Parce qu'en fait, il y a une personne qui avait fait faire un devis pour couper tous les arbres et remettre le sol à nu. Mais ça lui coûtait une fortune puisque les arbres n'étaient pas suffisamment matures pour ramener une valeur ajoutée. Et par contre, la main-d'œuvre coûtait extrêmement cher, quoi. Donc c'est ce qui a fait qu'on a pu acheter cette parcelle, heureusement. Finalement, elle nous attendait, on dit. Bon, c'est un peu prétentieux de notre part, mais ça fait plaisir. Et voilà, donc du coup, on a pu acquérir cette parcelle.
C'est marrant, ça, à cause des arbres. Et à ce moment-là, tu savais déjà que tu voulais te lancer dans un projet d'agroforesterie ?
Ben non, à ce moment-là, je ne connaissais pas l'agroforesterie, même si je l'avais faite sans m'en rendre compte, puisque quand j'étais, à l'époque, j'étais sur 25 hectares, sur une autre commune à côté, là. Et je faisais des vignes, j'avais planté 6 hectares de vignes et j'avais aussi planté des haies pour me protéger et pour abriter les auxiliaires et tout ça, donc c'est une forme d'agroforesterie. Mais je ne connaissais même pas le terme. Et en fait, j'ai appelé l'INRA de Montpellier, j'ai appelé Christian Duprat, j'ai appelé aussi Fabien Léagre d'Agrouf, qui sont basés à Anduze. Ils m'ont expliqué ce qu'était l'agroforesterie. Et ces terres étaient à l'abandon depuis 5 ans sans élagage et depuis 3 ans sans culture. Donc pour moi, ça m'a permis de démarrer directement en agroforesterie et en bio surtout. Découvrir l'agroforesterie, comme ça, j'ai décidé de continuer l'expérimentation en plus. Donc c'est des parcelles où on fait de la recherche expérimentale. Donc les auditeurs ne le verront pas, mais tu vois là-bas, il y a des petits chapeaux blancs là, un peu partout, c'est des sondes. Et donc on a mis en place trois modalités de différents élagages, types d'élagage, pour créer différentes ouvertures, pour avoir plus ou moins de lumière au sol, et un témoin plein soleil. Et on a des équipes de chercheurs de l'INRA de Montpellier, de l'INRA d'Avignon, d'Agrouf, à Anduze. Et tout ça, c'est un projet qui s'appelle Arbre à Tatouille et qui est dirigé par Agrouf. Donc Arbre à Tatouille, les légumes ratatouilles sous les arbres, en gros. Voilà. Donc on a gardé ce nom depuis 6 ans maintenant. Voilà.
Le côté ombre que t'apportent les arbres dans un projet comme celui-là, ce qui va t'empêcher certaines cultures, je sais pas, je dis bêtement, mais je pense aux tomates où j'ai toujours entendu qu'il fallait beaucoup de soleil pour faire pousser une tomate.
Ouais, c'est vrai qu'il faut du soleil pour faire pousser une tomate, mais il faut aussi de l'ombre si on veut pas qu'elle explose la tomate. Donc après, dans un système classique où on met beaucoup d'eau, enfin où on les met au soleil en plein, donc on est obligé de compenser en mettant beaucoup d'eau. Voilà, ce qui fait que la tomate, en fait, elle a pas super goût, quoi, puisque elle est gavée à l'eau. Alors pour un peu que l'agriculteur y mette aussi beaucoup d'engrais, pour qu'elle pousse et qu'elle fasse beaucoup de fruits, ça fait une tomate assez insipide, quoi. Ben nous, on les fait pousser à l'ombre, et pas que, hein, on en a aussi un peu, je sais pas si tu as vu en passant, une petite serre, là. Ben on avait fait faire une dégustation à l'aveugle les premières années, où on avait fait déguster des tomates de plein soleil, des tomates de plein ombre et des tomates de mi-ombre. Et celles qui ont été le plus plébiscitées par les clients étaient celles de l'ombre. C'est celles qui étaient le plus parfumées. Paradoxal quand même. Hein.
Les tomates de l'ombre.
C'est ça, c'est les tomates de l'ombre.
Du coup, ça bouleverse et ça renverse les croyances collectives.
Oui, il y a plus que ça à chaque fois que les... Parce qu'on a aussi... Le champ est ouvert à la cueillette. Je ne sais pas si tu as vu le panneau à l'entrée. Donc on ouvre notre champ pour que les gens viennent ramasser leurs légumes. Et comme ça, ils voient exactement comment c'est produit et ils ramassent ce qu'ils ont envie. Et voilà, ils payent, on pèse ce qu'ils ont ramassé. Et voilà. Comme si c'était leur propre jardin, quoi, en fait, en gros. Les gens sont étonnés de voir ce qui pousse sous les noyers. Ils disent, mais sous un noyer, rien ne pousse. C'est bien connu. Je dis, oui. Bah, faut croire qu'ici c'est une exception, ou alors c'est que le proverbe est faux, tout simplement.
Oui, c'est vrai qu'on a oui, c'est vrai qu'on dit que les noyés font une guerre chimique avec les végétaux et balancent de l'éthylène pour empêcher la concurrence.
Alors, ce serait de la juglone. C'est un alcaloïde qui est sécrété par le noyé, par tous les noyés. Mais alors, c'est vrai que ça a des effets assez puissants en laboratoire. Mais en milieu ouvert, c'est quand même moins important. Alors après, ce qui est concurrentiel plus que l'alcaloïde, c'est l'ombre. Ici, l'auditeur ne le voit pas, mais on est à 10 mètres au carré. Les houppiers font 22, je crois, le plus haut, ou 24 mètres d'eau. Et les houppiers se touchent, donc il y a des zones où c'est vraiment très très ombré. Donc là, la plupart des légumes ont du mal à pousser, mais c'est l'ombre qui empêche de pousser. Et il suffit de les élaguer un peu et de jouer sur l'élagage et faire rentrer un peu de lumière. Et du coup, les légumes poussent très bien. Hein.
Voilà. Au début de cet entretien, tu me disais paysan et fier de l'être.
Oui. Moi, j'aime beaucoup ce terme de paysan, parce que c'est revenir un peu aux sources. Alors, c'est peut-être aussi un petit clin d'œil au pauvre cerf qui se sent fait... exploité pendant tant d'années, mais je pense que c'est bien de remettre ce mot sur un piédestal, quoi. Parce que c'est, moi, je trouve beaucoup plus péjoratif exploitant que paysan. Voilà, donc j'aime ce mot paysan. Quelque chose qui m'inspire, bah, la nature. Et, tous les jours, quand je viens là avec ma femme, quand on ramasse comme ça, c'est un peu, je dirais pas un pèlerinage, faut pas exagérer, mais on est concentré un peu sur nous-mêmes, sur ce qu'on fait, et on entre en communion avec la nature. On n'a pas le choix, on avait les oiseaux. Bon, de temps en temps, il y a un voisin qui passe le tracteur. Bon, moi, ça m'arrive aussi de passer le tracteur. Donc voilà, mais quand il n'y a pas de bruit périphérique, on entend bien les oiseaux, on entend bien le vent dans les arbres. C'est une façon de se retrouver aussi un peu.
C'est intéressant, dans ce monde où on souffre d'une sorte de crise existentielle, on cherche du sens, l'homme cherche à remettre du sens dans son quotidien, dans ses actes, dans ses actions. Bah, quand je rencontre des paysans ou des agriculteurs, je me rends compte que le sens est là.
Oui, bah, de toute façon, on n'a pas le choix. Hein. Un paysan qui n'a pas de bon sens, il va pas bien loin. Hein. Ce paysan, il vit avec la nature, il travaille avec la nature, il vit avec la nature. Nous, c'est tous les jours, on est là tout le temps. Si on n'a pas le bon sens d'ouvrir les yeux et de regarder ce qui est évident, on va pas bien loin. Hein. On a essayé au départ. Hein. Au départ, on est arrivé avec des idées bien préconçues, un peu formatées, puisque j'avais fait une formation agricole. Hein. Donc voilà, pour semer, il faut bien labourer, bien préparer un beau lit de semences. Donc bien détruire tout ce qui est existant avant pour implanter notre produit. Et maintenant, on fait du semis direct et de la plantation en direct. Et on se rend compte que ça pousse très très bien aussi, parce que justement, le sol n'est pas perturbé. C'est la macrofaune du sol qui fait le travail pour nous, quoi. Donc, bon, il n'y a pas que la macrofaune, hein. Il y a aussi des râteaux-pieds, il y a des ravageurs, c'est vrai.
Il y a quand même l'aspect économique, on n'en a pas parlé. Si tu as un sanglier qui vient, qui ravage ton champ, ou si tu as, j'en sais rien, des conditions climatiques extrêmes qui vont t'empêcher de récolter des fraises, des tomates, ou qui vont t'empêcher de générer un revenu. Comment ça se passe? Est-ce que les agriculteurs ou les paysans sont soutenus dans ce genre de catastrophe naturelle?
Alors, théoriquement, oui. Mais dans les faits, non. Ben, en théorie, oui, on a les calamités agricoles qu'on appelle. Et les calamités agricoles sont là pour pallier justement ce genre de soucis et d'aléas. Sauf que voilà, en 2014, on a eu 1,50 m d'eau ici, par exemple. Donc on a tout perdu. Voilà, donc on a fait notre dossier qui nous a pris énormément de temps, puisque je l'ai fait moi, heureusement d'ailleurs, parce que si je l'avais fait faire par quelqu'un, ben, finalement, ça m'aurait coûté de l'argent. Puisqu'au final, j'ai touché 700 euros. Alors que j'ai perdu 6 tonnes de patates, tout le matériel, enfin bon, voilà quoi. Et ils m'ont remboursé à peine l'électrificateur, quoi. Donc heureusement que j'ai passé un mois pour le faire moi, parce que si j'avais payé quelqu'un, ça aurait été même pas la peine. Bon, voilà, bon, c'est un type d'exemple. En fait, après, c'est des systèmes qui fonctionnent, attention, hein, ça fonctionne très très bien. Si par exemple, j'avais eu 11 hectares de courges ou de vignes ou de blé, alors là, peut-être que j'aurais eu quelque chose, ouais, effectivement. Et si vous ne rentrez pas dans les cases, ça ne marche pas. Alors après, attention, hein, faut pas cracher dans la soupe, comme on dit. Hein, le système a aussi des bonnes choses. Hein, mais il y a quand même des fois des trucs comme ça où heureusement que ben heureusement qu'on rebondit quoi. Et qu'on se débrouille, qu'on se démerde un peu comme on dit quoi. Il faut hein, de toute façon. Dans la nature, c'est un peu comme ça que ça se passe aussi hein.
Mais c'est un choix.
C'est un choix. Ah oui, c'est un choix tout à fait. C'est un choix. Et je regrette absolument rien. Moi, en tout cas, je ne regrette pas. Maintenant, bon, c'est pas toujours facile, c'est vrai. Pas toujours facile, mais rien n'est facile. La vie, elle n'est pas simple, hein. Contrairement à ce qu'on croit. À part celui qui naît avec une cuillère en argent dans la bouche, et même pour lui, la vie, elle n'est pas simple.
La voix du Kaizen, une émission de Kaizen Magazine.